des livres plein les oreilles. T'es pas aussi méchant que t'aimerais qu'on le croit. Si t'étais un vrai cynique, tu pleurerais pas devant Danton Abbey. C'est signé Sophie, bienvenue, et c'est mon collègue, camarade, ami Mathieu Tessier qui me glisse comme ça une charmante petite citation que j'oublie souvent de dire en ondes. Et bien aujourd'hui j'y ai pensé, surtout qu'elle est signée Sophie, bienvenue, et que Sophie, bienvenue, qui fait partie de ces auteurs ou autrices, comme vous préférez, eh bien elle fait partie, elle, de nos petites préférées au Québec. Et parmi ses livres les plus marquants, il y a Autour d'elle, il y a Chercher Sam, il y a encore J'étais un héros, ou encore Et au pire on se mariera, qui en fait était son premier bouquin, qui est depuis peu disponible en audio. On va en écouter un extrait ensemble. Madame Rowling, Madame Harry Potter, ou Madame Monsieur Robert Galbraith, puisque c'est son nom d'emprunt pour d'autres bouquins, est certainement beaucoup plus riche que Sophie, bienvenue. Sous ce pseudonyme, cette richissime autrice écrit des briques absolument monumentales et, ma foi, pas mal faite du tout. Et là, je ne parle pas d'Harry Potter. Bon, jusque-là, tout va bien. Mais voilà qu'on apprend que Mme Rowling, ou M. Galbraith, aurait tenu et tient encore des propos parfaitement homophobes, assumés. Et alors, non seulement ça lui fait pas de mal, mais en plus, ça l'aide à vendre des copies, vrai ou faux. Je suis allée m'informer et ça semble se confirmer. Le classique de la semaine, ce sera Marcel Pagnol, dont les livres semblent trouver une nouvelle voie en la personne de Vincent Fernandel, le petit-fils du célèbre Fernandel, bien connu par ceux de ma génération. En seconde partie, Gérald Cousineau nous parle des Insolents d'Anne Scott, prix Renaudot 2023, et on finit tout cela avec des nouveautés à se glisser entre les oreilles. Alors, qui est Sophie Bienvenue? Eh bien, Sophie Bienvenue, elle est née en Belgique. En 1980, elle est absolument toute jeune. C'est une écrivaine franco-québécoise parce que, oui, elle fait partie des gens qui se sont installés et qui sont restés au Québec après avoir notamment été étudiante en communication visuelle à Paris, où elle a exercé divers métiers. Elle s'est établie ici en 2001. Pardon, et elle s'affirme rapidement comme une blogueuse à succès parce qu'elle a commencé avec des chroniques, avec des blogs. Et au pire, on se mariera était et est toujours d'ailleurs son premier roman qu'elle a écrit en 2015, qui avait obtenu entre autres le prix des Arcades de Bologne. Et puis voilà, c'était sa première incursion du côté du roman et du côté du livre audio. Je sais qu'on en a déjà enregistré, entre autres pour les non-voyants, mais en livres commerciaux, il faudrait que j'aille vérifier, mais il y en avait peut-être déjà un. Je pense que c'est Chercher Sam de mémoire qui avait été lu. Mais là, je suis très heureuse que le studio Bulldog ait décidé d'enregistrer ce livre qui s'appelle Et au pire, on se mariera, qui nous amène dans le quartier Centre-Sud à Montréal avec Aïcha qui vit chez sa mère. Elle n'a pas 18 ans, ni même d'ailleurs les 15 ans qu'elle prétend avoir. Elle n'a jamais connu son père. Elle en veut à sa mère d'avoir quitté Hakim. Hakim, c'était son beau-père. Pour amis, elle n'a que Mel et Joe et puis... ça, ce sont deux prostituées du quartier du Centre-Sud. Et puis, elle a aussi sympathisé avec Baz, qui est un musicien dans la vingtaine, qui va lui venir en aide. Et finalement, elle va en tomber amoureuse. Mais c'est un amour qui va s'avouer impossible pour Baz, parce que trop précoce et puis son impulsivité rebelle. Tout ça forme dans sa vie un cocktail explosif qui vont l'empêcher d'être heureuse comme elle le voudrait et peut-être comme elle le mériterait. C'est un récit cru, c'est un récit bouleversant. C'est le récit de la déposition d'Aïcha devant une travailleuse sociale. C'est donc un soliloque. Tout le livre est composé de ça. C'est une déposition. Ça a été adapté au cinéma en 2017 par Léa Poul à la réalisation. Voici un extrait de « Au pire et au pire, on se mariera ». De Sophie Bienvenue, c'est lu par Kim Depaty. Aïcha, Aïcha, elle est de brique. Oh, oh, Aïcha, Aïcha, prêt pour moi. Aïcha, Aïcha.
Ouais, Aïcha, c'est vraiment mon prénom? À cause de la chanson, tu sais? Non, tu sais pas. Personne la connaît, mais c'est pas grave. Je sais que j'ai plutôt la tête à m'appeler Rosalie ou Camille, mais je m'appelle Aïcha. Aïcha Saint-Pierre. Saint-Pierre, c'est le nom de ma mère, et Aïcha, c'est parce que mon père est algérien. OK, pas mon père-père, mais le gars avec qui il était quand il est tombé enceinte de moi. Il est resté un bout quand même, jusqu'à ce qu'il arrête d'espérer que mes cheveux deviennent bruns, et mes yeux aussi, et ma peau aussi. Il était nice. Puis il était beau. J'ai une photo de lui dans mon sac. Si tu veux la voir, je pourrais te la montrer. À un moment donné. Tantôt, genre. Quand ils m'auront rendu mon sac. Ils vont me rendre mon sac, hein? Parce que j'ai des affaires importantes dedans. Ils vont fouiller dedans? Whatever. Quand ma mère partait, je sais pas où, travailler, qu'elle disait, on restait tous les deux, lui et moi. Dans ce temps-là, j'allais pas à l'école, je m'habillais même pas, et on regardait des films toute la journée en bouffant de la pizza puis des frites. Lui, il aimait rien que les super vieux films genre Scarface et tout. Moi, je préférais les dessins animés, mais ça le faisait chier, les dessins animés. Alors j'ai fini par m'habituer à ces trucs. J'ai appris à parler anglais, à force. You wanna fuck with me? OK. You wanna play rough? OK. Say hello to my little friend. Et là, après ça, dans le film, Tony Montana sortait son gun et il explosait tout le monde. Une fois, avec Hakim... Ah! Je t'ai pas dit. Son nom, c'était Hakim. Au début, quand j'étais petite, je l'appelais papa, mais tout le monde a commencé à se foutre de ma gueule à l'école parce que ça se pouvait pas qu'il soit mon vrai père, alors j'ai arrêté. Ça lui a fait de la peine, je pense. Ils se sont engueulés avec ma mère. Il a tellement utilisé toutes les insultes qu'il connaissait qu'il s'est mis à lui crier après en arabe. Mais bon, j'écoutais pas vraiment. Après, il s'est poussé, mais il est revenu. Il revenait tout le temps. Sauf la fois où il n'est pas revenu. L'autre fois, il a jeté toutes ses affaires par la fenêtre en gueulant comme une possédée. Tu l'aurais vu. Une crise de malade. Elle m'a prise comme ça, avec ses ongles qui s'enfonçaient dans mon bras et tout. « Va dans ta chambre, puis reste-y », qu'elle m'a crié. Elle avait bien trop peur que je parte avec lui, tu sais. C'est ça que j'aurais fait si j'avais su qu'il partait pour de bon. Aïcha.
Et au pire, on se mariera de Sophie Bienvenue, lue par Kim Depaty, édité par La Mèche, enregistré chez Bulldog. Alors, Madame Rowling, celle qui fait énormément d'argent, non seulement avec Harry Potter, mais d'autres romans, et même un jeu vidéo qu'elle a sorti l'an dernier, et on a l'impression que plus elle prétend qu'elle est homophobe, et plus elle vend des bouquins. Et c'est vrai qu'elle est homophobe, elle déclare des choses absolument insensées à droite et à gauche, à tel point que le ministère de la Justice britannique projetait en lettres capitales sur le mur de son bâtiment, ils ont projeté en lettres capitales, répété après nous, « Les femmes trans sont des femmes ». Ce à quoi J.K. Rowling a répondu simplement et sur Twitter, « Non ». C'est fou, hein? Ensuite, en réponse à un commentaire qui se trouve sous son tweet faisant référence à la volonté du Parti travailliste de durcir les peines prévues en cas de mégenrage des personnes trans, l'écrivaine a ajouté « Je ferai avec plaisir 2 ans de prison si l'alternative est l'obligation d'utiliser dans mon langage des termes faux qui tordent la réalité et l'importance du genre. Amenez-moi devant le juge, je m'amuserai plus que sur n'importe quel tapis rouge », a déclaré Madame Rowling. Évidemment, ça fait mal, et puis je vous dis, je pourrais ne pas en parler puisqu'elle n'a pas besoin de publicité, mais le pire, c'est que quand elle écrit, par exemple, sous le nom de Galbraith, ce sont des briques incroyables, et c'est très bon, et le monde adore ça. Je dois dire que je suis tombée, j'en ai jamais lu en entier, mais les quelques extraits que j'ai pu lire, c'est vrai qu'en plus c'est bien traduit, donc j'imagine que c'est bien écrit aussi. Voici un extrait d'une série qui s'appelle Cormoran. C'est l'appel du coucou, c'est lu par Lionel Bourguet. L'appel du coucou signé Robert Galbraith, qui se cache en fait derrière le nom de J.K.
Rolling.
Les correspondants des chaînes d'information en continu débitaient un flot ininterrompu de commentaires et de supputations à partir des quelques faits sensationnels qu'ils connaissaient. De l'appartement au dernier étage, cette nuit, aux alentours de 2 heures, la police a été alertée par le gardien de l'immeuble.
Aucun signe encore qu'on se dispose à emporter le corps,
ce qui a conduit certains à se demander.
On ignore pour le moment si elle était seule chez elle au moment de sa chute.
Les équipes techniques sont entrées dans le bâtiment pour conduire une fouille approfondie.
La lumière froide du petit matin emplit l'intérieur de la tente. 2 hommes se tenaient accroupis près du corps, prêts à le glisser enfin dans le long sac noir de la morgue. La tête avait un peu saigné dans la neige. Le crâne était enfoncé et le visage enflé. Un des yeux, réduit à une fissure dans la peau. L'autre, montrant un trait de blanc terne entre les paupières molles. Quand le corsage pailleté brilla sous l'effet du changement d'éclairage, il donna l'impression troublante que la morte avait bougé, comme si elle respirait encore ou tendait ses muscles pour se relever. La neige qui tombait dehors était pareil à des doigts tapotant doucement la toile au-dessus des têtes.
« Et cette foutue ambulance, elle est où ?»
L'irritation de l'inspecteur Roy Carver allait croissant. Rondouillard, le visage cramoisi et arborant des chemises le plus souvent tachées de sueur autour des aisselles, sa courte réserve de patience était épuisée depuis déjà plusieurs heures. Il était là depuis presque aussi longtemps que le cadavre. Il avait les pieds tellement gelés que c'était à peine s'il les sentait encore, et la tête lui tournait tant il avait faim.
« L'ambulance arrive dans 2 minutes !»
annonça le sergent Eric Wardle. Répondant sans le vouloir à la question de son chef en entrant à son tour dans la tente, son portable pressé contre l'oreille.
« On dégage les gens pour lui faire de la place !»
Carver poussa un grognement. Sa mauvaise humeur exacerbée par la conviction que Wardle était excité par la présence des photographes. Beau garçon, aux traits juvéniles et aux épais cheveux bruns et bouclés maintenant raidis par la neige, Wardle, estimait Carver, s'était tout exprès attardé sous les objectifs lors de leur brève sortie hors de la tente, et cette idée le mettait en colère.
Au moins, ils déguerpiront tous une fois que le corps aura été emporté,
dit Wardle, le regard toujours tourné vers les photographes.
Ils ne partiront pas tant que nous continuerons à faire comme si nous étions sur une scène de crime,
répliqua Carver d'un ton sec. Wardle ne releva pas ce défi sous-entendu, mais Carver s'emporta quand même.
Cet idiote s'est jeté de son balcon,
lança-t-il au sergent d'un ton définitif.
Il n'y avait personne avec elle. Avec le cerbère posté dans le hall, personne ne pouvait entrer ou sortir.
Quant à votre soi-disant témoin, elle était complètement défoncée à la coque.
« L'ambulance arrive !»
coupa Wardle. Et au grand dam de Carver, il ressortit de la tente pour accueillir le véhicule en se plantant devant les caméras.
Alors voilà pour l'écriture contemporaine de Madame Rowling, ou si vous préférez, Monsieur Robert Galbraith. Le classique de la semaine, Marcel Pagnol. Oh, pas un mot tout de suite. Non, non, juste un souvenir, un extrait d'un film qu'on réécoute tout de suite.
Hervé, la voilà, la voilà. Tu l'as vu? Tu l'as vu retourner? La pomponnette? Dis, garce, salope, ordure. C'est maintenant que tu reviens, hein? Et le pauvre pompon dit, il s'est fait un mauvais sang de fesses depuis hier. Il tournait, il virait, il te cherchait dans tous les coins. Il était malheureux comme les pierres. Et elle, pendant ce temps-là, elle avait suivi son chat de gouttière. Un inconnu, un bon à rien, un passant du clair de lune. Qu'est-ce qu'il a de plus que lui? Rien. Oh, mais toi, tu réponds, rien. Mais elle, si elle pouvait parler, si elle n'avait pas honte, si elle n'avait pas peur de faire de la peine au pauvre pompon, elle dirait, il est plus beau, beau. Qu'est-ce que c'est, cette petite différence de l'un à l'autre? Les Chinois sont tous pareils,
Les nègres se ressemblent. C'est pas une raison. Parce que les lions sont plus forts que les lapins. Pour que les lapines courent après en clignant de l'œil. Et la tendresse dit. Qu'est-ce que tu en fais de la tendresse? Tu crois que ton berger de gouttière se réveillerait la nuit pour te regarder dormir? Dis, tu crois que si tu étais parti, il laisserait refroidir son four s'il avait été boulanger? Et pourtant, si on pense à tout, il est vieux, Pompon. Elle est jeune, elle pourrait être sa fille. Alors, si la nature l'a voulu.
Tais-toi, aimable, tais-toi.
Tais. Regarde-la, hein. Elle a eu l'assiette de lait du pauvre Pompon. C'est pour ça qu'elle est retournée. Elle avait faim et froid. Hein? Bois le lait de Pompon, hein. Ça lui fait plaisir. Dis, est-ce que tu repartiras encore?
Elle ne repartira plus.
Parce que si tu avais envie de repartir, il vaudrait mieux repartir tout de suite. Ce serait moins cruel.
Oh, l'acteur Rému. Jouant le boulanger, sa femme était partie avec un autre plus jeune que lui. Et finalement, elle revient. Il est incapable de se mettre en colère, enfin, de lui dire « Mais où t'étais ?» tout ça. Et la chatte revient et finalement, c'est à la chatte qu'il parle. « Oh, la pomponnette !» Ah, en tout cas, c'est quel grand moment, extrait de « La femme du boulanger », réalisé d'ailleurs par Pagnol. Pagnol, qui a retrouvé une voix, la voix de Vincent Fernandel, qui est le petit-fils de l'acteur Fernandel, disparu depuis maintenant... passablement beaucoup de temps. C'est certain qu'il y a beaucoup de jeunes parmi vous qui nous écoutez qui n'ont aucune espèce d'idée de qui est Fernandel, mais il y en a peut-être parmi vous de ma génération qui se rappellent encore de sa truculence, qui se rappellent peut-être de La vache et le prisonnier, par exemple, qui a été un film extraordinaire, ou en tout cas, bon. Alors voilà, pour Fernandel, et c'est donc son petit-fils qui est devenu comédien et qui est également narrateur, et c'est lui qui s'est collé sur Jean de Florette. Au départ, Jean de Florette, c'est L'eau des collines. C'est donc Pagnol qui avait écrit ça. Il faut savoir que dans le film de Berry, c'était d'abord Manon des Sources. Je veux dire, non, c'est le contraire. Il avait commencé, Pagnol, à écrire Manon des Sources. Puis finalement, avec sa femme, il a même réalisé un film lui-même. Avec sa femme, ils ont dit « mais c'est pas possible, ça marche pas, on comprend pas pourquoi, on sait pas ce qui se passe ». Alors là, c'est là qu'il a écrit Jean de Florette, qui est en fait le tome 1 et qui explique le Manon des Sources. Alors voici donc dans l'ordre contemporain un extrait d'abord de Jean de Florette, puis de Manon des Sources, de Marcel Pagnol, c'est lu par Vincent Fernandel.
Leur grand défaut, c'est qu'ils étaient avares, d'une avarice maladive, parce qu'ils étaient pauvres d'argent. Ils payaient le pain avec du blé ou des légumes, et en échange de 3 ou 4 côtelettes, ils donnaient au boucher une poule, un lapin ou quelques bouteilles de vin. Quant aux sous qu'ils rapportaient de temps à autre du marché d'Aubagne, ils disparaissaient comme par magie, et l'on ne voyait surgir les pièces de 5 francs qu'au passage des colporteurs pour payer des espadrilles, une casquette, un sécateur. C'est que la garrigue, qui constituait tout leur domaine, n'était qu'une suite d'immenses tables de calcaire bleuté, séparées par de profonds ravins, qu'ils appelaient des vallons, parce qu'on y trouvait ça et là de petits lacs d'une terre peu profonde, apportés au cours des siècles par les vents et par les ruisseaux de la pluie. C'est là qu'ils avaient établi leurs champs, bordés d'oliviers, d'amandiers et de figuiers. Ils y cultivaient des pois chiches, des lentilles, du blé noir, c'est-à-dire des plantes qui peuvent vivre sans eau. et de petites vignes de jacquet qui avaient dessillé le phylloxéra. Mais autour du village, grâce à des prises greffées sur la canalisation de la fontaine, on voyait verdoyer de riches potagers et des vergers de pêchers et d'abricotiers dont ils portaient les fruits au marché. Ils vivaient de leurs légumes, du lait de leurs chèvres, du cochon maigre que l'on tuait chaque année, de quelques poules, et surtout du gibier qu'ils braconnaient dans l'immensité des collines. Il y avait pourtant quelques familles riches, dont la fortune représentait l'épargne et les privations d'une longue lignée. C'étaient des pièces d'or cachées dans des poutres, ou des marmites enterrées sous le fond de la citerne, ou maçonnées dans l'épaisseur d'un mur. On n'y touchait que pour un mariage ou pour l'achat d'un bien mitoyen. Alors, toute la famille redoublait d'efforts pour reconstituer au plus vite le trésor amoindri. Le maire, c'était Philoxène de Clarisse. 47 ans, gros et rond avec de beaux yeux noirs, et un profil romain, sans barbe ni moustache. Ses mains velues étaient assez grasses, car elle n'avait jamais touché une pioche. Il était propriétaire du bar tabac, obtenu grâce à une blessure de guerre, assortie d'une pension. On le respectait pour cette blessure, d'ailleurs invisible, mais surtout à cause de la pension. Il se disait socialiste laïque anticlérical, lisait ouvertement sur sa terrasse le Petit Provençal et vituperait volontiers contre les jésuites qui menaient la France à sa perte.
Ah là 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 là, voilà un extrait de Jean de Florette, alors que Pagnol nous présentait les gens des Bastilles de Blanche, où on déteste ceux de Crespin. Et justement, le Jean qu'adorait, dit le Bossu, qui s'installe à la ferme des Romarins, eh bien, on ne lui parle pas de la source cachée, parce qu'on ne veut pas qu'il élève ses lapins. Et évidemment, ça facilite les manœuvres des soubérants. Je ne sais pas si vous avez vu le film, mais avec le papet, qui était joué par Yves Montand, et le neveu, Hugo Leng, qui était joué par Daniel Auteuil, qui était amoureux fou de Manon, la fille de Cadoret, de Pardieu, j'ose même plus dire le nom. En tout cas, mais assez fou, à cette scène de Hugo Leng qui se coud un ruban sur la poitrine. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, en tout cas. Magnifique Marcel Pagnol, et puis magnifique aussi ce que Berry en avait fait, ce film. Vous savez que pour faire ce double film, hein, d'abord Jean de Florette, puis ensuite Manon des Sources, Claude Berry et Gérard Braque ont écrit, en fait ça a duré 3 ans, les repérages ont duré également des années, et le tournage 8 mois en 1985. Le montage des deux films et la préparation de leur sortie en salle s'est étalé sur toute l'année 1986. Bref, ça a été un travail vraiment époustouflant. Revenons à Pagnol, revenons à Vincent Fernandel, qui va cette fois-ci nous lire un extrait de Manon des Sources, alors que du côté de Hugo Leng et de Papet, on va essayer de planter des œillets.
La sourde muette leur servit un riche déjeuner dans la belle maison du Papet. Attilio, excité par le vin de jacquet, parla de son métier avec une poésie véritable. Il s'attendrit sur la fragilité des boutures, l'infinie richesse des coloris de l'œillet malmaison, la longueur des tiges du remontant de Nice. Puis il fulmina contre l'araignée rouge, parla durement du pouls du Mexique et critiqua le directeur de la criée d'Antibes qui favorisait honteusement les Italiens. Car Attilio était né en France, et son père, M. Tornabua, était naturalisé depuis longtemps. Puis il tira de sa poche une grande liste des fournitures nécessaires. D'abord, 4000 baguettes de 60 cm. Il en faut 3 ou 4 par plante. Ça, c'est pas la peine de les acheter. Vous pouvez les faire vous-même. Ça sera mon travail, dit le papet. Après, il faudra faire les piquets et les traverses pour soutenir les paillassons. Ça aussi, nous pouvons le faire. Puis, il faudra commander les paillassons pour couvrir les fleurs la nuit. C'est fait avec des joncs de Camargue. Il t'en faut pour au moins 1000 francs. Ensuite, 50 bobines de fil de coton, l'engrais chimique, les insecticides et 2 sulfateuses. J'ai calculé qu'en tout, ça va chercher dans les 7 à 8 000 francs.
Ugolin regarda le papé, craignant que l'énoncé d'une pareille somme ne le fît souffrir. Mais le vieillard dit simplement « Les sulfateuses, nous les avons. »
« Alors, papé, tu es d'accord pour qu'il commande tout ça pour nous ?»«
Ça sera bien gentil de sa part, parce que nous ne savons pas où ça se vend. » En enfourchant la pétaradante motocyclette, le bel Attilio déclara « Faites ce que je vous ai dit. Dans 3 mois, je reviendrai pour tracer les vaseaux et j'apporterai les boutures, toutes prêtes à repiquer. C'est monsieur Tornabua, mon père, qui te les offre. » parce que tu nous as beaucoup aidés. » Il fut assez facile de faire reculer l'épinède. Une équipe de bousquetiers s'en chargea, moyennant la moitié du bois abattu. Naturellement, il fallut les surveiller, car pour augmenter leur part de bois, ils auraient rasé les 2 coteaux jusqu'à la crête. Oui, c'est comme ça les bousquetiers. L'arrachage des oliviers vint ensuite. Ils étaient plusieurs fois centenaires, et leurs racines formaient des blocs énormes. Avec le pic, la hache et le palan, il fallut 5 semaines pour en venir à bout et combler les cratères qui avaient 3 ou 4 mètres de diamètre. Tout en faisant ce travail, Ugolin avait mauvaise conscience. Pour obtenir le pardon de ce crime, il offrit 20 petits cierges à Saint-Dominique et promit de soigner dévotement les 4 arbres qu'il avait épargnés. Il fallut ensuite combler le puits du pauvre monsieur Jean. Ugolin, qui travailla 2 longues journées à rejeter les déblais dans le trou, eut une pensée émue pour celui qui s'était donné tant de mal à les extraire. Mais il était trop passionné par son entreprise pour s'attendrir durablement.
Je pense que ça ne se démodera jamais. Ça. On pourra réécouter ça dans 50 ans. Marcel Pagnol, lisez Marcel Pagnol, ou encore mieux, écoutez du Pagnol lu par celui qu'on vient d'entendre, qui est Vincent Fernandel, pour ceux qui viendraient seulement de se joindre à nous. Oui, c'est le petit-fils du célèbre Fernandel, lui-même d'origine marseillaise, en tout cas de la région de Marseille, comme Marcel Pagnol. Voilà, je vais y arriver. Ouais, j'avais envie qu'on fasse un petit spécial. Il y aura toujours un petit classique comme ça dans chacune de mes émissions. C'est important parce que la littérature contemporaine en audio, c'est le fun, mais la littérature plus classique, quand elle existe en audio, hélas, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a quasiment pas au niveau du Québec. Mais ça viendra, mes amis, ça viendra. Vous écoutez Clotilde Seille à l'émission Des livres plein les oreilles. Merci aux auditeurs qui nous écoutent, j'oublie parfois de le faire, sur CKVL. Et puis merci à tous ceux, toutes celles qui nous écoutent sur Canal M ou encore en podcast, en balado. Allez, on se retrouve dans quelques minutes, mais pas si vous nous écoutez en balado. Des livres plein les oreilles, seconde partie. Les Insolents, Dan Scott, a reçu le prix Renaudot en 2023 et a aussi reçu beaucoup d'intérêt et d'attention de la part de notre chroniqueur Gérald Cousineau, qui va nous en parler dans quelques secondes. Et pour finir cette émission, des nouveautés qui ont retenu mon attention à moi, et j'espère bien qu'il va retenir la vôtre quand vous en aurez écouté des extraits. Bonjour, cher Gérald.
Bonjour, ma chère Clotilde.
Alors, Ces Insolents, prix Renaudot, je ne vais pas déjà vous demander si ça le méritait, mais en tout cas, parlez-nous déjà du bouquin. Allez.
Je dirais d'abord que depuis quelques mois, je fais des découvertes, et c'est le cas également pour Anne Scott, que je n'avais jamais lu, et Les Insolents, c'est son 10e roman quand même.
Shame,
je n'en avais jamais entendu parler. Oui, d'ailleurs, je me bats la poitrine actuellement.
Oui, j'en suis sûr. J'en suis
donc,
sûr.
10e roman, prix Renaudot l'année dernière. Eh bien, Anne Scott, ce n'est pas son vrai nom, hein, c'est un pseudonyme. Ah. Elle a été musicienne et mannequin. Et quand elle était mannequin en Angleterre, ben, les gens avaient du mal à prononcer son nom français, son vrai nom.
Ah.
Alors, elle s'est baptisée Scott à la mémoire de Francis Scott Fitzgerald, un écrivain américain qu'elle aime bien. Voilà d'où elle a gardé Scott pour une fois qu'elle est devenue romancière.
Ah, bon.
Et je le souligne parce que dans le livre, c'est important aussi, elle va quitter Paris en 2019 pour s'établir sur la côte bretonne. dans ce que vous appelez, vous, le Finistère. Mm-hmm. Donc, elle vit pas loin de l'océan. Mm-hmm. Alors, Les Insolents, paru l'an dernier, donc, eh ben, ce sont trois Parisiens qui ont eu un passé assez difficile. Ben, ils sont relativement jeunes quand même, dans la fin quarantaine, je dirais cinquantaine. Donc, ils ont eu des moments difficiles et ils vivent à Paris. Et dans ces trois-là, il y a Alex, qui est une compositrice de musique de film, une musicienne. Elle décide qu'elle en a marre de Paris. Elle va quitter son petit appartement du Marais, où elle entend ses voisins constamment, et elle n'en peut plus. Elle va donc quitter son appartement du Marais pour louer une maison en Bretagne. Donc, elle a vu ça dans les petites annonces. Elle va louer une petite maison qui est loin d'être parfaite, mais quand même, elle y est. Et il y a là la mer, bien sûr, pas très loin. Et il y a aussi, surtout, le silence. Mmh. Pas de voisins, c'est merveilleux ça. Mmh. Donc, elle va vivre là, mais en s'exilant en quelque sorte en Bretagne, ben, elle se sépare de deux de ses grands amis qui sont Jacques et Margot. Jacques et Margot qui, eux, sont restés à Paris, même si Jacques a une maison secondaire quelque part dans la Drôme, qu'on dit, je pense.
Oui, la Drôme, oui.
La Drôme, ouais. Voilà. Mmh. Il a une maison secondaire là, donc Jacques et Margot, ils sont restés à Paris. Et donc elle va devoir s'habituer, bien sûr, à sa solitude, parce qu'à Paris, bien sûr, elle voyait beaucoup de gens, elle était musicienne, donc elle rencontrait beaucoup de gens. Mais là, elle est toute seule, et ça va quand même se passer assez bien. Elle sent, dès son arrivée, qu'elle va être bien, là, dans cette maison. Bon, même si la maison, encore une fois, est loin d'être parfaite, il y a plein de petits problèmes, entre autres le chauffage. Bon. En Bretagne, il y a un hiver aussi, hein, paraît-il. Hein.
Bon. Je dirais 7 mois de l'année, oui.
Bon,
non, c'est pas vrai.
Non.
C'est pas vrai.
Donc, elle est là. Et elle se fait, bien sûr, on déménage tout ce qu'elle avait à Paris. Elle s'installe. Elle a au moins 4 ou 5 pièces à elle toute seule. Bon, elle va cependant découvrir que sans voiture, c'est pas facile. Il faut qu'elle aille en taxi dans la toute petite ville qu'il y a pas très loin, où elle fait l'épicerie, etc. Donc, mais ça, elle l'a accepté, donc elle accepte, effectivement, jour après jour. Donc, ses amis vont... Jacques, l'un de ses deux grands amis, va venir la voir, mais Margot, elle, c'est drôle parce qu'elle va s'amener un jour, elle prend le train, puis le taxi, elle va virer de bord parce qu'elle n'est pas capable, elle ne supporte pas la campagne, incapable de supporter la campagne. Et pourtant, c'est pas vraiment la campagne, c'est la mer
ben
qui
oui.
est là. Bon, mais elle est comme ça, Margot, elle sombre souvent dans la dépression. Et ça qui m'a frappé dans ce roman, c'est que tous les personnages, et là j'en ai nommé trois, mais il y a aussi Jean, un ancien amoureux, un ancien amant de Alex qui vit maintenant à Berlin. Parce que Alex, je le dis tout de suite, elle est bisexuelle. Donc, elle a des souvenirs amoureux avec des hommes et avec des femmes.
Bon.
Il y a Lou, une femme qu'elle a beaucoup aimée, mais Lou avait une copine. C'est très compliqué, cette histoire. En fait, ces personnages ont vraiment des histoires d'amour. Et j'écoutais ça et je pensais à Jacques Brel quand il dit « Nos amours ont mal aux dents ».
Ah oui.
Mais c'est exactement ça. Il n'y a pas un personnage là-dedans qui a une vie amoureuse normale, si tant est que ça existe une vie amoureuse normale. Donc, ils sont tous, au Québec, on dirait « poqués ».
Ouais,
ils ont tous mal. Il y en a un qui va se faire agresser à Paris, vraiment une agression brutale. Il s'appelle Léo. Et lui connaît Alex. Il va se rendre en Bretagne. Il va arpenter la plage jour après jour dans l'espoir de la rencontrer, de lui dire ce qu'il a vécu. Donc, il y a comme toujours un personnage qui est en quête d'un autre. Ça me fait penser à Pirandello.
Ah donc, oui, toujours, ça c'est vrai.
Les personnages essaient de se joindre pour finalement essayer de sauver ce qui reste à sauver, mais je l'ai dit, ils sont dans la quarantaine, la cinquantaine, et il y a la moitié de la vie qui se pointe là.
Ouais,
et d'ailleurs, je m'arrête tout de suite parce que vous avez, je pense, un extrait.
Oui.
Et ça nous met tout de suite dans l'ambiance.
Dans l'ambiance, parce que c'est ça. On comprend pourquoi elle veut quitter Paris.
Oui.
Voilà. Et alors, on écoute ça tout de suite. Donc, je rappelle pour les gens qui viendraient de se joindre à nous que je suis avec Gérald Cousineau et que nous évoquons ensemble Les Insolents de Anne Scott, prix Renaudot 2023, dont on écoute un extrait.
Tout. Plutôt que de rester coincé à Paris où je ne croisais jamais personne qui me transporte, qui ait la même énergie, le même enthousiasme, la même incandescence. Personne avec qui monter un groupe ou ne serait-ce que partager ce qui était vital pour moi, la musique, les films, les livres dont je me nourrissais. Paris, où ce décalage entre ce que j'étais et ce qui m'entourait, me donnait le sentiment de ne pas avoir ma place dans le même monde que les autres sur les trottoirs. Première partie. L'extérieur. Trois décennies plus tard, c'est d'un train qu'elle vient de descendre. Et Paris et tout ce qui allait avec est enfin terminé. Elle est assise sur la terrasse de la maison, sur la marche d'une des portes-fenêtres, adossée à un volet fermé du salon, du moins de ce qu'elle suppose être le salon, si elle a bien compris le plan qu'on lui a envoyé. Elle n'est même pas encore entrée dans cette maison qu'elle vient de louer sans la visiter. En arrivant, elle a seulement fait le tour du jardin, qui continue derrière, avant de revenir s'asseoir de ce côté, et depuis 2 heures, elle contemple ce qu'elle a sous les yeux.
Et pour savoir ce qu'elle contemple, eh bien, sachez qu'elle est au cœur du Finistère. Le Finistère, pour vous situer, Gérald, oui. c'est une région dans la Bretagne. C'est-à-dire que c'est le bout du bout. Vous savez, là, quand on se représente la Bretagne, là, ça fait comme une fourchette. Ben, c'est la fourchette du milieu, c'est le bout du bout, le Finistère. Voilà.
Ben, j'ai justement écouté hier un reportage dans YouTube où on parlait du Finistère et on en parlait comme d'une région paradisiaque.
Oui.
C'était le mot qu'on employait.
Oui. Mais c'est vrai, mais ça dépend ce qu'on cherche. Alors revenons à notre Alex, parce que...
Mais dans l'extrait, il y a un mot qui m'a plu à la fin, elle dit « elle contemple ». Mais c'est littéralement ça, elle va contempler, parce qu'à côté de Paris, où elle est tout fait, là, il y a un horizon immense devant elle. Il y a la mer, le sable, la plage où elle va se retrouver souvent, donc elle contemple. Mais un peu plus tôt dans l'extrait, on dit pourquoi, une autre raison pour laquelle elle a quitté Paris, c'est qu'elle ne croisait personne qui avait la même énergie, le même enthousiasme et, je dirais surtout, la même incandescence. Parce que cette femme, Alex, est incandescente.
Okay, ouais.
Elle vit intensément et elle préfère, somme toute, être toute seule qu'être seule dans une foule. Tant qu'être seule dans une foule, elle préfère être seule tout à fait. C'est exactement ça qu'elle va vivre.
Avec la même incandescence.
C'est ça. Ça peut paraître noir, ce que je dis. Effectivement, il y a beaucoup de noirceur dans ce livre. Mais le personnage de Léo, dont je parlais tantôt, il va dire une chose toute simple, à un moment donné, vers la fin, malgré tout ce qu'il a vécu, et lui, il a été agressé, je le répète, malgré ça, il va dire quelque part que tout est un miracle. Et là, il va nous faire une petite liste des choses qui valent la peine d'être vues, qui valent la peine d'être entendues. Donc, malgré toute cette noirceur, et là, on va taper, parce que l'autrice tape aussi sur Internet, elle tape sur les médias sociaux, oh là là, ils en prennent pour leur rhume. Hein. Mais malgré tout ça, il y a quand même des petits moments, il y a un peu de soleil par-ci, par-là. Mm-hmm. Il faut passer à travers. C'est pas long, hein, ça fait, en termes d'écoute, c'est à peu près 4 heures. Donc, c'est pas très long à écouter ou à lire, mais il faut passer à travers parce qu'il y a quand même un peu de soleil ici et là. Mais évidemment, quand on quitte quelque chose, on perd quelque chose, mais on acquiert quelque chose de nouveau. Et l'autrice va dire, elle se dépouillait infiniment, elle voulait se dépouiller infiniment le plus possible pour justement aimer davantage le peu qu'elle avait désormais. Donc, il y a de la sagesse quand même là-dedans. Arrivée au mi-temps de sa vie, elle devient plus sage, mais elle reste incandescente quand même.
C'est marrant, il y a comme en ce moment un élan chez les auteurs, le changement de vie, le changement de carrière. Je pense au dernier Fuenquinos, dont j'ai déjà parlé ici, un monde heureux ou quelque chose du genre. En tout cas, c'est son dernier, là, où il est question là, d'un type tout d'un coup qui se remet en question aussi. Il y a Western aussi, où il y a celui qui doit jouer le rôle de Don Juan dans la pièce de Molière, qui décide de tout plaquer tout d'un coup. Il y a une vague en ce moment, énormément.
Je pense que la pandémie, d'ailleurs, on en parle dans le roman de Mme Scott, je pense que la pandémie a joué un rôle. Les gens sont habitués à vivre isolément et il y en a qui en ont profité pour prendre le bord. Et c'est drôle, je fais une dernière remarque, parce que juste avant de relire Scott pour une troisième fois, je vais écouter un livre du français, David Le Breton, sociologue français. Et j'avais oublié carrément qu'il avait écrit en 2015, publié en 2015, un livre qui s'appelle « Disparaître de soi ».
Ah, oui.
C'est un peu ça. Les gens, ils parlent des gens qui disparaissent littéralement parce qu'ils veulent changer de vie, changent de nom, changent de continent. Ouais. Donc ça, c'est David le Breton. Mais c'est un peu ça qui arrive à Alex. Elle veut changer de vie, fuir Paris pour se refaire finalement au début de son exil. Et finalement, elle accepte son exil et elle se sent de mieux en mieux dans ce coin de France, au bord de la mer.
Ben écoutez, je vais aller voir pour vous si des fois il n'y en aurait pas d'autres d'Anne Scott qui auraient été enregistrées en version accessible à tous. Ça, c'est
oui,
vous qui pourriez me le dire.
Dis, c'est son dixième roman.
Mais c'est ça. Mais en version commerciale, je ne sais pas non plus. J'ai oublié de mentionner que c'était lu l'extrait. En fait, le livre en version commerciale, ça a été produit par Audiolib et lu par Constance Dollé, D-O-2-L-E.
Très bien lu.
Absolument. Oui. Et puis, ben, vous nous en avez parlé remarquablement bien, mon ami, comme toujours.
Ah bon, vous êtes
scandaleusement clair et tout était parfait. Alors, soignez votre grippette
et
se retrouve le plus vite possible parce que c'est toujours un régal de vous entendre. Salut Gérald.
Merci.
De rien.
Au plaisir.
Bye.
Au revoir.
Je vous rappelle son nom, c'est Gérald Cousineau et je l'ai dit avec un grand sourire, mais mon Dieu, qu'il est agréable de travailler avec lui. Et depuis maintenant tant d'années qu'il participe à l'émission Des livres plein les oreilles, qui se poursuit avec des nouveautés, notamment celle de Jean-Claude Mourlevat, quelqu'un que j'ai découvert très récemment, qui écrit pour les jeunes, mais que je trouve que plein d'adultes devraient se procurer ses livres, tellement c'est à chaque fois, c'est magique, c'est un vrai enchantement. Alors ça s'appelle Le chagrin du roi mort, et dans une entrevue, c'est Monsieur Mourlevat, Jean-Claude Mourlevat, qui en parle lui-même, et qui dit que là-dedans, comme dans d'autres livres, il pose sans cesse le doigt sur la même blessure, cette nostalgie, mélancolie, de partir, et on y revient, et donc de quitter. Hein, on vient d'en parler avec Gérald. Il dit aussi que dans ce livre-là, c'est comme un rêve éveillé, bien sûr, puisque les morts ne se lèvent pas de leur lit de pierre. Hein. Le roi, ce roi qui s'appelait Olund, on est dans les pays scandinaves, venait d'ouvrir ses yeux bleus comme la glace, et c'est ce roi, à un moment donné, qui meurt. Et le chagrin du roi n'est jamais... En fait, on en parle et il y en a deux qui vont être bouleversés par ce chagrin-là. Ce sont deux frères, Alex et Briscoe. Enfin, frères, pas tout à fait, on va l'entendre dans l'extrait, mais en tout cas, deux jeunes hommes qui ont grandi ensemble depuis leur plus tendre enfance. Et à un moment donné, il va arriver quelqu'un à un malheur à Briscoe, qui est l'un des deux. Il va être enlevé dans les souterrains d'une immense bibliothèque. Et entendre le cri terrorisé de son frère, nous dit Mourlevat dans cette entrevue, et ne rien pouvoir faire pour l'aider, ça plonge Alex dans le grand désespoir, le même, semble-t-il, que celui que vivait ce roi, le chagrin du roi mort. C'est le titre du livre et je vous en propose un extrait. C'est lu par Rachel Arditi.
Bjorn veut dire fort comme un ours. Mais cet ours-là semble bien inoffensif et pâteau en soulevant dans ses larges mains le nouveau-né qui ne pèse presque rien. Larmes, rires, embrassades. Enfin, tout ce qu'il faut pour fêter la naissance comme il se doit. Mais les jeunes parents ignorent encore l'incroyable surprise qui les attend dans la même nuit. Le bébé dort à peine contre sa mère. Dans le calme revenu de la maison, qu'on frappe à la porte en bas. Bam, 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 10 fois au moins. Bjorn descend ouvrir, s'attendant à trouver devant lui un collègue ou un soldat. Pour frapper aussi fort, il faut avoir des poings et des bras. Surprise, c'est une toute petite femme, noiraude, bossue et ratatinée, qui se tient là, dans le froid, et qui s'impatiente. Bjorn la connaît bien. C'est Brit,
la vieillarde mi-sorcière, mi-bonne fée. D'ailleurs, tout le monde la connaît. Et les enfants en ont peur. On raconte qu'elle se régale de rats crus, qu'elle mange même les têtes, mais qu'elle garde les queues par centaines dans des boîtes. Pourquoi faire ? Elle les dépose sans se faire voir chez ceux à qui elle veut du mal. Les queues sont si rabougries, et elle les cache si bien qu'on ne les trouve jamais, et les malheurs arrivent sans qu'on sache comment. Un jour, Briscoe a cru en trouver une sous la huche à pain.
« Maman, papa, Alex !»
a-t-il hurlé, saisi de terreur.
« Une queue de rat de la sorcière Brite ! Une queue de rat de la sorcière Brite !»
Mais ce n'était qu'un fil de laine poussiéreux oublié par terre. Tout le monde a bien ri, et l'histoire a fait le tour du quartier. Quand Alex veut faire enrager son frère, il l'imite en prenant une petite voix géniarde et ridicule.
« Maman, une queue de rat de la sorcière Brite ! Au secours !»
Alors, Briscoe fait semblant d'être furieux, se jette sur lui, et ils se battent en riant. Ils ont même décidé que si un jour l'un des deux était en danger, alors il dirait ça, que de rat de la sorcière Brite. Comme un mot de passe, un code secret que seul pourrait connaître. Et l'autre volerait à son secours, au péril de sa vie, sans que rien ne puisse l'arrêter. Ils ont fait le serment, juré à la vie à la mort, craché au sol et mélangé leur crachat avec un bâton. On dit aussi que Brite peut résister des nuits entières dehors dans le froid glacial, sans mourir ni même s'enrhumer. Preuve évidente que le feu de l'enfer la chauffe de l'intérieur. De la même façon, elle peut marcher pieds nus sur des braises ardentes sans se brûler. Preuve supplémentaire qu'elle y est habituée. Voilà pour le mal.
Oui, parce qu'elle fait aussi du bien, cette sorcière Brite. Petit chef-d'œuvre, bien écrit, bien lu, Le chagrin du roi mort de Jean-Claude Mourlevat, lu par Rachel Arditi. C'est sorti dans la collection Écoutez lire chez Gallimard. Le grand secours, qu'est-ce que le grand secours ? D'abord, sachez que le grand secours, c'est le nom qu'on donne à une vanne anti-incendie. En tout cas, ici, je ne sais pas, mais de l'autre côté, c'est, je n'avais jamais entendu parler de ça. Là, on est avec un jeune garçon qui s'appelle Mo. Vous allez entendre l'extrait, je ne vais pas tout vous raconter ce qui se passe là, parce que vous allez l'entendre très bien, mais sachez que c'est à partir de cet extrait-là qu'il va se dérouler quelque chose sous le pont de Bondy. Bondy, c'est une banlieue défavorisée de Paris. Et c'est sous ce pont où on passe où il y a des carrefours, donc il y a des voitures, il y a des tramways, il y a des trains qui passent là. Et tout d'un coup, il va y avoir un événement, mais qui va déclencher quelque chose. Mais ce quelque chose-là va s'amplifier et va changer la vie de plusieurs personnes à Paris et dans sa région. Ça s'appelle « Le grand secours » de Thomas B. Reverdy. C'est lu par Julien Frison. Extrait.
Il s'est arrêté sur le pont pour regarder le soleil se lever. Il y a toujours un moment un peu miraculeux quand ça arrive, quand on est là pour le voir. Le canal est blanc, comme un linceul, ciel voilé, d'œil qui se traîne, de plus en plus clair, embrumé, laiteux. Un ciel à croire qu'il va neiger. Et puis le soleil apparaît. Il déchire les nuages, ceux de l'horizon, il les disperse. Il les brûle comme une flamme brillante de soudeur qui transpercerait du coton. Et le ciel autour s'enflamme. Ça ne dure peut-être que 10 ou 15 minutes. Le vent se lève avec le jour et le ciel devient rose et jaune, comme une carte postale, comme s'il n'y avait jamais eu de nuages. Le soleil ouvre le ciel comme un voile. Laisse passer les anges. On voit aussi ça ici. À Bondy, il y a du ciel. Mo est accoudé à la balustrade du pont, sur le quai du tramway direction la Courneuve. Il regarde les nuages partir en lambeaux et le soleil se lever sur le canal qui flambe. Des mouettes urbaines poursuivent au ras de l'eau une bouteille en plastique ou l'ombre d'un poisson. Plus bas, le carrefour de la Nationale, au pied de la barre d'immeubles du S, bourdonne déjà de ronflements de moteurs, de bruits de démarrage et d'accélération, de coups de klaxon de bus, semblable à des cornes de brume lointaines qui traversent le brouillard sonore de ses écouteurs. Mo monte le son, rajuste sa capuche. Les nuages ont presque disparu. Sa prof est rentrée depuis longtemps dans le lycée. Les grilles vont bientôt s'ouvrir. Sous le pont de l'autoroute qui recouvre le carrefour, au pied du S, un attroupement se forme, comme si les flux de gens qui se croisent dans le petit matin venaient de rencontrer un obstacle. Ceux qui descendent du bus, ceux qui traversent, et peu à peu, un bruit d'agitation. Un bruit fait de cris et d'exclamations se met à résonner sous le pont et se répand dans les brumes déchirées de l'aube. Sous les éclairages orange des réverbères géants et se diffuse, plus fort que les bruits ronflants de circulation jusqu'à lui. Mo tourne la tête de ce côté, se demande ce qui se passe, enlève un de ses écouteurs. 7h35, 13e arrondissement de Paris. C'est à peu près l'heure à laquelle Paul sort de chez lui. Paul s'est réveillé à 6h45, puis à 6h54, et finalement à 7h03, presque déjà en retard. Il a ouvert les yeux dans sa chambre minuscule, surpris, au meilleur d'un rêve dont il ne se souvenait déjà plus, par les hurlements de son réveil, le souffle coupé, la bouche affreusement sèche et la tête encore lourde, entre le rhume et la gueule de bois. Il a heurté en se levant une des piles de bouquins qui jouaient les barrages de castor à côté de son lit, et manqué, en tâchant d'éviter les livres, ainsi répandus par terre, de s'étaler lui-même de tout son long, en tâtonnant sur le sol d'un pied déjà froid, cherchant un bout de parquet disponible pour y prendre appui. Il a, pour éviter de glisser, shooté résolument dans un volume de Shakespeare en édition bilingue, en poussant son premier juron de la journée.
Ouais, ça promet, de la même façon que le prochain et dernier titre de l'émission aussi va promettre, si vous voulez être tenu en haleine du début à la fin, je vous conseille ceci. Ça s'appelle « Petite salle », c'est de Louise May, M-E-Y, lu par Marie Dublet, de prix Landerneau du Polar en 2023. « La terre est riche, la terre est riche, la boue est riche, elle, pas. Tout le monde est plus riche qu'elle, même la boue. Catherine est pauvre, Catherine fait sale, Catherine parle peu. Au domaine où elle travaille, elle fait partie de ces invisibles grâce à qui la ferme tourne. Monsieur, lui, est riche. Il ne parle pas non plus. Il crache ou il tonne. Et il possède tout. Mais quand sa petite fille de 4 ans disparaît ce jour glacé de février 1969, monsieur perd quelque chose d'une valeur inestimable. Dans cette vallée de champs de betteraves où chaque homme et chaque femme est employé de près ou de loin par monsieur, deux flics parisiens débarquent alors pour mener l'enquête avec les gendarmes. Car une demande de rançon tombe, mais le village entier semble englué dans le silence et dans les non-dits. Personne ne veut d'ennui avec monsieur, à commencer par Catherine. Catherine qui se fait plus discrète et plus invisible encore, si tant est que ce soit possible. Catherine qui est surtout la dernière à avoir vu la petite. Faisons connaissance avec Catherine, la petite salle.
Un jour, elle a apporté un café dans le bureau de monsieur. Il y avait la facture détruite. Et elle a su qu'elle valait, elle, Catherine, moins qu'un porc. Elle a regardé les mains de monsieur, des mains qui n'avaient pas touché la terre depuis longtemps, des mains à compter les sous, à signer des papiers. Elle a imaginé le café brûlant renversé sur ses doigts aux poils bruns et blancs, les brûlures, la peau fondue. Elle s'est imaginé lui faire mal. Mais en hiver, la maison est froide. En hiver, tout est froid. Et d'être montée de la grande cuisine jusqu'au premier étage, la tasse avait déjà cessé de fumer. Il n'aurait pas eu mal. Pas assez. Pas assez pour réparer. Pas assez pour lui faire oublier que les filles comme elle, Catherine, valent moins qu'un porc. Alors elle a posé la tasse, en essayant de toutes ses forces de ne pas trembler. Et elle est sortie, vite. Parce que ses doigts-là, Catherine les connaît. Parce que monsieur possède tout et prend ce qui lui chante. Et que si elle ne pouvait pas le réduire en cendres, alors il valait mieux partir. Mélie lui fait des signes impatients. Dit « Mais viens donc !» Catherine serre la poignée du seau dans sa main. Elle est venue jeter les pelures au cochon, et elle a osé regarder au loin. Rien que ça, on dirait que c'est une offense. À Mélie, à l'ordre, à monsieur, au porc peut-être. Quoique eux, oui, lui font un peu peur, mais la traitent avec une indifférence bienvenue. D'égaux à égal. Il pourrait lui faire du mal. puisqu'ils valent plus cher. Puisque tout ce qui vaut plus cher s'arroge le droit de la maltraiter. Même Mélie. Elle obéit et se fait invisible. Toute petite, petite, petite sale.
Encore là, petite salle de Louise May, lue par Marie Dubled, bien écrit, bien lu. J'espère que vous allez vous ruer, du moins les oreilles, là-dessus. Voilà, c'est ainsi que s'achève l'émission des livres plein les oreilles, animée pour vous, réalisée pour vous par Clotilde Seille, mais surtout mise en onde cette émission par l'ami Mathieu Tessier qui me soutient, qui m'appuie toujours avec son beau sourire. Merci à vous d'être là à CKVL ou encore via Canal M ou encore via les balados. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Je vais aller me plonger dans un bouquin, ça, c'est sûr.